Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers dans le pédalo pour une nouvelle semaine d'actualité locale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu un peu profiter d'une manière ou d'une autre de la fête de la musique. Et on va justement parler encore un peu musique ce soir, plus précisément musique et écologie, puisqu'Alexis a pu s'entretenir avec Pierre Perchaud, guitariste de jazz professionnel, un des trois musiciens à l'origine d'un appel pour une écologie de la musique vivante avec Laetitia Marcel et Grégoire Letouvet. Au printemps dernier, se sont réunis des professionnels, producteurs, musiciens, artistes, du jazz et des musiques improvisées pour réfléchir et interpeller le secteur sur les pratiques, les modes de production et encourager un changement audacieux et vertueux afin d'avoir des pratiques professionnelles plus responsables et plus écologiques. En deuxième partie d'émission, on prend un peu d'avance sur le mercato des programmes Radio Campus France. Comme vous le savez, Radio Campus Angers appartient à un réseau plus global d'autres Radio Campus, 27 à travers la France, et chaque été, nous procédons à un échange de programmes afin de voir ce qu'il se fait chez nos confrères. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit programme court qui s'appelle « Du côté des autrices », réalisé par Mathilde Doisy à Radio Campus Paris. Il s'agit de quelques minutes de présentation des autrices, qui ont été longtemps invisibilisées, alors qu'elles font partie tout autant des classiques de la littérature. Ce sera donc pour la fin d'émission, mais je vous propose d'écouter tout de suite l'interview d'Alexis avec Pierre Perchaud. Bonne émission à toutes et à tous.
Nous recevons ce soir Pierre Perchaud, guitariste de jazz professionnel, musicien à l'origine de l'appel pour une écologie de la musique vivante avec Leïla Martial et Grégoire Letouvet. Ce texte propose notamment que chaque acteur et actrice de l'industrie musicale prenne ses responsabilités pour la préservation de l'écosystème et pour une pratique plus verte et écologique de la musique. Un texte ouvert proposant des idées et solutions face à ce défi où chacun et chacune est libre d'y partager ses réflexions et commentaires. Alors bonjour Pierre, tout d'abord, comment vous est venue l'idée de cet appel? Il part d'une réflexion et d'un constat personnel?
Bonjour, oui, effectivement, ça fait un moment que je suis très concerné par ces questions-là. L'idée originale vient de Leïla Martial, qui, pendant le confinement, a eu un fort besoin de se poser sur ce débat-là et d'essayer d'agir. Et donc elle m'a contacté pour me demander si... Je suis d'accord pour l'aider dans la rédaction de ce texte. Et voilà, ça m'a tout de suite parlé parce que ça fait des années que je réfléchis, je me dis comment m'engager, de quelle manière, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà des petits gestes que j'essaie de faire titre individuel.
Et de nombreux acteurs et actrices du monde du jazz donc sont signataires de votre appel. Qu'en est-il des autres mouvements musicaux? Ont-ils relayé cet appel et ont-ils réagi à vos propositions?
Oui, alors on a été au contact pendant l'écriture du texte avec initiative qu'il y a eu par exemple dans le milieu du classique. Le nom de leur appel m'échappe là, évidemment, mais on est en contact avec eux et voilà, on va voir à l'avenir s'il y a moyen qu'on fédère un peu toutes ces actions-là, qu'on travaille. L'idée, c'est vraiment de justement que cet appel, ces propositions-là créent un peu du remous, des discussions, et on va voir à l'avenir comment faire en sorte de travailler tous ensemble. C'est la grande question.
Et à la suite donc du confinement et de l'épidémie de Covid-19, pensez-vous justement que les questions écologiques dans le monde de la culture vont devenir primordiales?
Oui, c'est sûr que cette crise-là met les questions écologiques encore plus en avant. Chacun, beaucoup de monde ont eu l'occasion de réfléchir à ça peut-être plus intensément encore que d'habitude. Donc c'est un moment important parce qu'il faut profiter de cette brèche pour essayer de s'arrêter deux secondes et de réfléchir comment pas tout recommencer comme avant, c'est sûr.
Et à l'échelle nationale, un certain nombre d'artistes ont été relativement déçus par les réponses apportées par le ministère de la Culture. Vous avez transmis votre appel et vos propositions à ce dernier ?
Pour l'instant, c'est pas remonté jusqu'à eux, non. Là, on espère que ça soit à l'avenir. Pour l'instant, on est vraiment parti de notre réseau en essayant que tout le monde se sente concerné pour que ça passe au stade des fédérations, des organismes liés au monde de la musique, et on espère que ça remontera un jour jusqu'au ministère, que ces questions-là, en tout cas, remonteront un jour jusqu'au ministère, mais pour l'instant, on ne leur a pas envoyé directement.
Et pour rester un peu sur cet impact du Covid-19 et du confinement, donc on sait l'impact sur ce secteur culturel risque d'être catastrophique. Est-il urgent pour vous que le gouvernement propose des réactions fortes pour préserver les acteurs et actrices du monde de la culture tout en enclenchant cette transition ?
Ben c'est sûr qu'on a besoin que le gouvernement suive sur ces questions, préserve le monde du spectacle et de la culture là, qui a un gros coup sur la tête, qu'ils réalisent évidemment, qu'ils comprennent que c'est indispensable. Et en plus de ça, plus d'essayer de sauver les meubles dus à la situation du coronavirus, qui effectivement puissent essayer de soutenir les initiatives plus en phase avec les problèmes écologiques au sein de la culture.
Et donc, pour revenir au texte en lui-même, alors certaines propositions, notamment dans les questions relatives au transport ou à la vie en tournée, paraissent abordables et réalisables. Pourquoi cela n'a-t-il pas bougé ou évolué avant ?
Parce que on est tous... c'est difficile de réaliser... Donc la prise de conscience, je pense, est toujours très longue et répond souvent à plein de petites étapes qui font que on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire attention, mais de là à ce que ça aboutisse réellement concrètement dans nos façons de faire, c'est toujours long, et même avec de la bonne volonté, les renoncements changer des habitudes, c'est jamais simple, de ce que j'ai pu remarquer sur moi-même et autour de moi. Donc justement, l'idée d'écrire un texte comme ça, c'est d'aider tout le monde, et nous y compris, à transformer nos bonnes intentions en choses concrètes. Quoi.
Et l'appel a notamment été relayé et publié sur le site de l'Orchestre National de Jazz. Alors j'étais un peu surpris de constater sur le site de l'ONG, dans la partie concert, des déplacements prévus durant l'automne à Budapest, Vienne, mais aussi à Doha, au Qatar. Cela me paraissait un peu contradictoire avec les mesures proposées dans l'appel autour de cette question des transports et des dates de tournée. Cette institution ne devrait-il pas justement montrer l'exemple, entre guillemets ?
L'idée, je pense que s'ils ont signé l'appel, c'est qu'ils ont conscience qu'il y a des choses à réfléchir. Mais là, pour l'instant, tout ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est des organismes, des orchestres qui ont besoin de jouer, et parfois difficile de refuser des opportunités. Et il va falloir changer, mais on demande pas... Le texte qu'on a fait n'est pas une charte qui fait que si on signe... il faut s'y tenir. C'est juste des propositions, et les gens qui signent adhèrent au fait qu'il va falloir se pencher sérieusement sur la question. Mais là, les concerts là que vous voyez sur le site de l'ONG ont sûrement été calés il y a déjà bien longtemps. Souvent, c'est des concerts qui se calent un an à l'avance. Donc c'est plutôt pour l'avenir, où il va falloir qu'ils réfléchissent à concrètement par rapport à leurs problématiques à eux, comment faire pour changer un certain nombre de points sur les transports et les tournées, parfois des dates isolées loin, comment faire pour les organiser différemment, les refuser. C'est tout justement le contenu de ces discussions qui sont très concrètes et qui sont très liées aux problématiques de chacun. Donc moi, je ne suis pas là dans l'organisation de l'ONG, mais ça va sûrement poser un certain nombre de problèmes très concrets s'ils veulent essayer de se rapprocher de ce qu'on dit dans cet appel, c'est sûr.
Ouais, c'est vraiment un texte tourné vers l'avenir, et c'est vraiment des propositions où chacun peut se pencher pour voir quel petit effort il pourrait faire pour contribuer à ce mouvement, à ce texte.
Oui, des petits efforts, voire des grands, mais l'idée n'est pas de, de se positionner en donneur de leçons, c'est-à-dire qu'on sait très très bien que ça va être, ça va poser un certain nombre de difficultés très sérieuses à essayer d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une forme d'urgence à vraiment avancer de manière significative sur un certain nombre de sujets, de la part de tous les corps de métier, nous compris. Mais on a bien voulu donner une tonalité dans cet appel et ces propositions concrètes, c'est de bien expliquer que on a conscience de l'ampleur de la difficulté sur certains points, notamment les transports.
Et un certain nombre de personnes aussi, on le voit depuis le déconfinement, ont milité pour un retour et une plus grande place aux artistes locaux. Est-ce que c'est une des propositions que vous avancez dans cet appel ?
Bah, disons que nous, ce qu'on avance, c'est qu'effectivement, on va falloir limiter nos déplacements, notamment nos déplacements en avion. Et donc, du coup, pour que les artistes puissent continuer à avoir une activité qui les fasse vivre, il va falloir qu'ils relocalisent une partie de leur activité pour que ces déplacements-là soient plus rares, mais ça n'enlèvera rien, et même au contraire, de rajouter de la qualité, du sens aux déplacements lointains quand on les fait, mais qu'ils soient vraiment beaucoup, beaucoup moins fréquents. Et du coup, comme ça va de fait limiter l'activité, de refuser un certain nombre de déplacements pour des dates isolées à l'autre bout de la Terre, il va falloir se développer plus localement, en partie en tout cas. Donc, se pencher sur les réseaux et comment être créatif autour de nous, ça pose forcément la question de nos activités locales.
Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que cet appel, il s'adresse aussi bien aux artistes professionnels qu'aux artistes amateurs.
Bien sûr, ça s'adresse à tout le monde de la musique, d'une manière très, très large.
Et de la même manière aussi, on pourrait rattacher ce texte, il peut trouver un écho pour les plasticiens, les comédiens et comédiennes, qui peuvent aussi se retrouver dans ces propositions.
Complètement, d'ailleurs, au tout départ... On avait des discussions, on était en lien avec des gens qui venaient du monde du cirque, du théâtre, mais on a décidé quand même de se cantonner au monde de la musique parce que les problématiques sont quand même, il y a des points communs, mais il y a aussi des différences dans la manière dont tout ça fonctionne. Donc ça aurait été quand même très très complexe de faire des propositions pratiques, par exemple, pour des corps de métier différents. Mais ils ont en partie les mêmes problématiques. Et on a discuté avec des gens d'ailleurs qui les ont entamés dans leurs différents secteurs.
Alors, vous avez aussi lancé un groupe Facebook intitulé donc Pour une écologie de la musique vivante. On y voit de nombreuses questions et discussions lancées par les utilisateurs. C'est une grande satisfaction de voir les gens s'impliquer et réagir à cet appel.
Oui, c'est vrai que on est content de l'écho que ça a eu et comment ça a démarré. Déjà, on a plus de 300 signatures assez rapidement et les débuts du groupe Facebook sont satisfaisants aussi parce que c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire on voulait que ce soit interactif, qu'on pose des questions, un certain nombre de questions sur la table et puis qu'ensuite ce soit débattu entre nous et que chacun puisse mettre un petit peu son grain de sel pour faire évoluer nos réflexions. Nous-mêmes, je pense que dans 6 mois, on aura sûrement bien avancé sur nos réflexions. D'ailleurs, on espère pouvoir faire, à la suite d'un bout de quelques mois, faire de temps en temps un petit update de nos propositions pratiques, en récoltant un petit peu les propositions de chacun, de voir comment ça a évolué. Et donc, ça répond bien, et donc on encourage tout le monde à vraiment venir partager leurs idées, leurs doutes, leurs interrogations sur ce qu'on a écrit ou des nouvelles propositions, nous relayer des actions qu'ils ont déjà sur ces sujets ou dont ils ont entendu parler. Voilà.
D'ailleurs, tout le monde peut participer à ce débat, des spectateurs et spectatrices à l'artiste qui a une pratique plus ou moins professionnelle.
Oui, je pense que ça doit être vraiment ouvert au plus grand nombre.
Et comment s'est passée l'écriture du texte fondateur ? Vous vous êtes réunis, je sais pas, autour d'une table et vous avez émis chacun et chacune vos hypothèses ?
Alors ça s'est fait pendant le confinement en grande partie, donc on s'est pas vu en physique. Hein, on avait des textes, des ébauches de textes, on s'appelait, on retouchait, on a fait évoluer la forme qu'on voulait que ça ait, le ton surtout, mais voilà, il y a eu toute une phase où on a récolté le contenu des idées concrètes, et il y a eu toute une phase très, très longue où on a essayé de faire attention vraiment à la tonalité du texte, au positionnement dans lequel on se mettait, c'est-à-dire justement surtout pas se positionner d'un point de vue des normes de son ou vouloir imposer des normes. On a juste essayé de décrire notre façon de décrire ce qui pourrait peut-être être viable. On veut que ce soit le plus fédérateur possible sans enlever le contenu de nos propositions. Voilà.
Mais on le ressent bien dans le texte, donc il y a des propositions, et c'est peut-être ce qui amène aussi cet échange d'idées et de débats, notamment je parlais de Facebook, c'est le fait que c'est pas un manifeste, c'est des questions qui restent ouvertes, et ça permet aussi à chacun de prendre ses responsabilités.
Oui, exactement, et voilà, ce qui est important, il faut qu'on se mette d'accord sur le constat et l'urgence de la situation, et il faut qu'on essaye d'imaginer ce qui serait viable, et ensuite qu'on essaye de trouver comment faire pour aller dans cette direction, parce qu'il y a plein de problèmes très concrets pour le transport principalement, hein, par exemple l'organisation des tournées à ce niveau-là, parce qu'effectivement il y a plein de petits gestes qui sont très simples à faire.
Oui, chacun se reconnaît, même les festivals, même en tant que participant par exemple d'un festival, sur la conduite qu'on peut adopter.
Oui, la manière pour les festivals, la manière dont on peut essayer de fonctionner plus en réseau, la manière dont on peut essayer parce que c'est ça qui peut aider aussi à limiter les déplacements des artistes, les gestes écologiques qu'on peut faire au sein des manifestations. Il y a des tas de choses à faire, et peut-être que c'est une bonne chose que les lieux, les festivals se parlent entre eux aussi pour échanger des idées. Voilà, l'idée, c'est que, évidemment, c'est évidemment pas que les choses passent par nous, en fait, c'est que les structures se rapprochent les unes des autres pour discuter ensemble et que voilà que ces questions-là soient récupérées et par chacun.
Vous êtes vraiment le moteur, enfin vous êtes, c'est un peu ça, c'est l'idée d'insuffler un esprit.
C'est de l'impulsion. Voilà, modestement, nous on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des spécialistes des organismes de la musique, on est juste des musiciens, citoyens concernés sur les questions, et c'est la volonté de créer une impulsion. Faire des propositions concrètes pour pas non plus juste envoyer un message très flou de « Ah, bah, ce serait bien de faire des choses super avec l'écologie. » On voulait vraiment se mouiller dans des propositions pratiques, mais c'est voilà, c'est modestement, entre guillemets, c'est... Et juste essayer de se fédérer autour de l'idée qu'il y a urgence pour chacun, chaque corps de métier, à y réfléchir et que la musique ne doit pas y échapper. Même si, évidemment, c'est pas nous, peut-être, il y en a certains qui peuvent dire oui, mais c'est quand même pas nous les plus gros pollueurs, etc. Mais en fait, chacun doit quand même, malgré tout, réfléchir à ce qu'on peut faire.
Merci beaucoup Pierre d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je rappelle que l'appel est disponible sur le site grandformat.com ou encore sur le site de l'ONG. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le groupe Facebook intitulé « Pour une écologie de la musique vivante ». Vous pourrez en apprendre plus sur les différentes propositions et pistes de réflexion engagées par ce texte.
Voilà. Alexis a donné toutes les informations à la fin de l'interview, merci à lui. On remettra également ses liens utiles sur la page de cette émission. Et quant à nous, on se retrouve juste après un titre de catégorique, c'est Kendrick.
Demolition gal, de Barbie à Shanghai, toujours le même chandail, dérangement quand on s'enjaille. Afro-punk, afro-descendant, on en fait couler du sang d'encre. Ouais. Où est la reine, j'irai sans gants, aucune pitié, ce sera sans gants. Go. Mes portes se hérissent, rage dans mes iris, pique et suis malade à force de vivre. Les mots disent ce qu'ils veulent dire, dans viol, y'a vie et y'a vol. Parle-moi, fais pas forcément français, j'écoute ton âme si ça vibre, y'a folle. What's up, one, c'est le Bataclan, la chicane comme un rapace en forme. Rendez-vous de l'autre côté, gloire costume dans la vie à sous-côté. Femme très mûre, j'ai comme des centaines d'années à force de traîner mon corps comme si j'étais condamné. Mais les formes passent le but, ce que je vais faire n'est pas synthétique. Je suis en forme, j'ai la Kendrick, yes, j'ai j'ai les boules, j'écrase qu'elle dit. On t'a dit ce n'est pas bon, tu as fait. Maintenant tu demandes pardon. Vous les enfants d'aujourd'hui là, vous méritez cocotta avec talon. Y'a des choses qui m'ont choqué, j'ai comme une daronne qui drogue son adolescente. Mais en vrai c'était même plus deg, elle tenait l'assiette pour que sa fille sniffe. Je suis en forme, j'ai la peine, j'ai la peine, j'ai la peine. Je marche sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non j'ai pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Je suis en forme, j'ai la peine, j'ai la peine. Je marche sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non j'ai pas le même. Bang bang, bim bim. En vrai y'a tout qui rime rime. Mais tes rappeurs préférés font même plus l'effort. Qu'est-ce tu veux que je te dise dise. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as piétiné. T'as brisé les os et t'as sucé la moelle. Une fois le ventre plein, la loyauté se perd après dîner. Je rentre sur le terrain après Didier. Et les fonds d'Afrique là pour perdurer. Mémoire gigantesque mais j'suis perturbé. Ta gueule me dit rien, j'suis du père quitté. Martin j'suis très réveillé. Mais y'a plein de choses dont j'm'en bats les boucs. J'me sens comme Harry Potter. Cap d'invisibilité bulletproof. Balai volant devient waterproof. Quand j'le bite ce soir on dit what the ouf. What the ouf. What the ouf. Original tellement what the fuck. J'me suis ramassé à la petite cuillère. J'suis plus la même aujourd'hui que je l'étais hier. Laisse nous profiter, on le mérite, on a trop souffert. Toujours résister, Babylone on pourra pas s'y faire. Laisse nous profiter, on le mérite, on a trop souffert. Toujours résister, Babylone on pourra pas s'y faire. J'suis en forme, j'ai la quête, j'ai les gants, j'ai la voix. J'marque sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non j'ai pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. J'suis en forme, j'ai la quête, j'ai les gants, j'ai la voix. J'marque sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non j'ai pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même.
De retour dans le pédalo sur Radio Campus Angers. On approche tranquillement de la fin de cette émission, mais je vous propose d'aller faire un tour du côté de Paris, puisque nos camarades de Radio Campus Paris, et notamment Mathilde Doisy, en partenariat avec l'association Le Deuxième Texte, proposent un format court qui parle donc des autrices méconnues et trop longtemps invisibilisées. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. On parle d'Elsa Triolet, première femme à avoir obtenu le prix Goncourt, c'était en 1944.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage ou
non, pas? Je suis l'autrice.
Vous êtes l'autrice?
Du côté des autrices, format court pour grandes écrivaines.
Peut-être que le 21e siècle sera le siècle du retour d'autrices.
Bienvenue dans Du côté des autrices, un format court qui fait de la place aux femmes dans le clan des classiques de la littérature. Elle fut la première femme à recevoir le Goncourt en 1944. Aussitôt, des voix masculines s'élevèrent. Elles dirent qu'elle n'avait obtenu ce prix que parce qu'elle était une femme. Elles dirent qu'elle avait reçu ce prix pour des raisons politiques, parce que son recueil de nouvelles faisait écho à son engagement dans la résistance. Une réaction digne de celles qui ont suivi les récompenses revenues à des femmes dans notre ère post-MeToo. Je parle d'Elsa Triolet, première femme à avoir reçu le Goncourt donc, mais qui continue d'être largement présentée comme la muse de Louis Aragon, dont elle fut la compagne. Elle a pourtant mené sa propre carrière en tant qu'autrice et traductrice. Et si Aragon lui dédie beaucoup de ses œuvres, dont son fameux poème « Les yeux d'Elsa », ils ont en réalité entretenu un dialogue d'égal à égal, s'inspirant l'un l'autre. Leurs œuvres se sont même souvent répondues. C'est le cas entre le célèbre roman « Aurélien » d'Aragon, qui fait écho au « Cheval blanc » qu'Elsa Triolet a publié un an plus tôt. Elsa Triolet est née en 1896 à Moscou, sous le nom d'Ella Kagan. Elle tient son nom de famille, sous lequel elle est connue, de son premier mari, Antoine Triolet, un officier français en poste à Moscou. Elle publie son premier roman en 1926, en russe. Elle est encouragée à continuer dans cette voie par le cercle littéraire qu'elle fréquente dans la capitale soviétique. Elle quitte le RSS pour la France avec Antoine Triolet, puis séjourne avec lui un an à Tahiti. Leur relation se dégrade et Elsa Triolet s'installe à Paris. Là, elle retrouve un autre cercle artistique, celui des surréalistes, où elle rencontre Louis Aragon. Ils ne se quittent plus. Agnès Varda consacre d'ailleurs un court-métrage à leur amour. Ensemble, Elsa Triolet et Louis Aragon s'investissent dans le communisme et dans la résistance. Le premier accro coûte 200 francs, c'est la phrase qui annonçait le débarquement en Provence. Elle reprend cette expression en guise de titre pour son recueil de nouvelles qui remporte le Goncourt. Malgré la liberté retrouvée, Elsa Triolet n'a pas eu un regard tendre pour les années d'après-guerre. Elle voit d'un mauvais œil l'oubli qui s'impose très vite sur les actions commises sous l'occupation. Elle dédaigne aussi ces années fastes des Trente Glorieuses, de la croissance retrouvée, de la consommation décuplée. En 1959, elle entame sa trilogie « L'âge de nylon » avec un premier tome baptisé « Rose à crédit ». Dans « Rose à crédit », Elsa Triolet raconte l'histoire de Martine, fille de Marie et d'un père inconnu, deuxième enfant d'une famille de six. Martine grandit dans une grande misère, dans une cabane en lisière d'un bois où les rats se faufilent sur vous la nuit. Elle déteste cet environnement du plus profond de son âme et se réjouit lorsqu'elle parvient à convaincre sa mère de la laisser être prise en charge par la coiffeuse du village, Madame Donzère, dont la fille Cécile est sa meilleure amie. Avec elle, Martine se délecte d'un univers de pacotille où tout est propre et sent bon, à l'opposé de ce qu'elle a vécu, comme on le perçoit dans cet extrait. Martine n'avait jamais été au cinéma. Elle n'avait jamais vu la télévision. La radio, ça oui. Chez Mandonzère, elle laissait la radio ouverte tout le temps, à tremper dans la musique et dans les mots d'amour. Mais venait Mandonzère et elle coupait musique et mots d'amour avec l'indifférence du temps qui passe. Le silence qui s'ensuivait était odieux, comme de recevoir un seau d'eau froide sur le dos, comme de manquer une marche, comme d'être réveillée au milieu d'un rêve. Pour Martine, cette musique était un vernis qui coulait, s'étalait, rendant toutes choses comme les images en couleur des magazines sur papier glacé. Madame Donzère était abonnée à un journal de coiffure et elle achetait des journaux de mode où l'on voyait des femmes très belles et du nylon à toutes les pages, des transparences pour le jour et la nuit. Et soudain, sur toute une page, un œil au style merveilleux ou une main aux ongles roses et des seins dont le soutien-gorge accusait encore la beauté et les détails. Sur le papier glacé, lisse, net, les images, les femmes, les détails étaient sans défaut. Or, dans la vie réelle, Martine voyait surtout les défauts. Dans cette forêt, par exemple, elle voyait les feuilles trouées par la vermine, les champignons gluants, véreux. Elle voyait l'état de terre du passage des taupes, le flanc mort d'un arbre déjà attaqué par le pivert. Elle voyait tout ce qui était malade, mort, pourri. La nature était sans vernis, elle n'était pas sur papier glacé, et Martine le lui reprochait. Obsédée par le papier glacé et les ongles roses, Martine, première de sa classe, devient la parfaite employée du salon de coiffure de Madame Donzère, avant de se faire engager à Paris dans un institut de beauté. Son bonheur dépend d'une quantité de produits de consommation et d'ameublement qu'elle achète à crédit. Une obsession qui tourne à la déraison et qu'Elsa Triolet transcrit très bien, dans un univers entre Vénus beauté et les années d'Annie Ernaux, où défilent les objets et les envies qui marquent une époque. Elsa Triolet raconte les ambitions de plus en plus tristes et froides de son héroïne, prisonnière d'une image de la femme parfaite et d'un monde de plastique. Elsa Triolet continue sa trilogie avec deux autres tomes, Luna Park et L'âme. Au total, elle publie une trentaine d'ouvrages. Elsa Triolet est très engagée dans la démocratisation de la lecture. Pour elle, un écrivain public est celui qui exprime ceux qui ne savent pas écrire, celui qui, comme le magicien d'autrefois, exorcise la foule, qui, comme le psychanalyste d'aujourd'hui, cherche à la libérer en nommant les mots qu'elle ne sait pas préciser. Alors continuons à lire, pour ressentir le monde et la foule. Et on se retrouve dans un mois, avec une autre femme et ayant la force d'une autrice classique. À bientôt!
Merci beaucoup à Mathilde Doisy, Radio Campus Paris. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau pédalo.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.